C'est la suite du message les uns les autres que Michel a fait depuis presque 8 séances. Et c'est sur ce livre les uns les autres d'Alfred Kuhn, qui effectivement, je l'ai pris, donc Michel a voulu que je fasse cette leçon, parce qu'elle concerne la construction. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience en construction. Et donc ce chapitre 6, Édifiez-vous les uns les autres, eh bien, est très bien commenté dans le livre de Kuhn, que vous pouvez avoir d'ailleurs, puisqu'Yves Casalis vous le propose. Et donc la suite de ce chapitre 6, c'est Édifiez-vous les uns les autres. Voilà. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui commande là, si c'est Olivier, donc il faut que tu suives pour que. Voilà. Vous voyez, la synchronisation n'est pas encore là. C'est qui fait avancer le. Ah voilà, c'est bon. C'est dans Louis II, j'essaie de prendre un peu deux versions qui illustrent un petit peu mieux le contenu. Louis II, dans c'était celui-ci à 5.11, dit c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et estimez et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. La Bible du Semeur, c'est un petit peu différent, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut continuer, amplifier, voilà, et s'aider mutuellement et s'édifier les uns les autres. Alors tout d'abord, c'est important de se rappeler que Jésus est un bâtisseur de plusieurs formes. On verra tout à l'heure une autre forme, mais l'élément principal de ce qu'il bâtit, c'est son Église, puisqu'il dit « Je bâtirai mon Église ». Donc Jésus est un bâtisseur, et il l'a rappelé à ses disciples juste avant d'aller à la croix, lorsqu'il leur a demandé qui il est, donc son identité. Il lui a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors l'Église, c'est quelque chose de vivant, hein, c'est une famille, c'est une communauté, c'est... l'Église locale est une communauté où on s'aime les uns les autres, et donc c'est ce thème, s'aimer les uns les autres, et en passant par le fait de le bâtir. Il faut bâtir cette communauté. Alors, comme tout édifice, il y a une pierre. On commence par une pierre de fondation. Hein. J'ai bâti plusieurs maisons, dont celle de Florence, et j'étais là quand la première pierre a été posée. J'avais pris une photo, voilà, il n'y avait rien. Même les filles qui étaient là, voilà, ils jouaient sur le terrain avant que vienne le bulle et tout ça. Et le démarrage de l'édifice sur lequel repose toute la maison, c'est une pierre. Ça s'appelle la pierre de fondation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, la Bible dit que pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le fondement. Il l'a dit à ses disciples lorsqu'il a établi l'Église, et les apôtres l'ont repris. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle en disant que Jésus-Christ est le seul fondement. On ne peut pas en bâtir un autre sur lequel repose notre foi, repose l'Église, repose la communauté, qu'elle soit locale ou universelle, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ceci étant, cette Église se bâtit dans le temps. Jésus, quand il avait ses disciples, ses 12 disciples autour, il a commencé par une personne, c'est Pierre. Donc Pierre et les apôtres. Pierre, voilà, c'est toujours celui qui était le premier, le plus rapide à intervenir, et Jésus l'a accepté comme cela, quelqu'un d'impulsif, mais qui représentait les apôtres, et tous les apôtres avec lui. Et ils ont posé les pierres de fondation après la venue du Saint-Esprit, après la Pentecôte. Et il semblerait que même en Inde, par exemple, il y a le disciple Matthieu, c'est Matthieu hein, ou Thomas. Thomas, je crois. En Inde, il y a un village où voilà, ils ont dit Thomas est venu ici. Et toute cette région est chrétienne et est marquée par Thomas, le disciple de Jésus, qui a établi l'Église en Inde. À partir de l'Inde, ça s'agrandit à partir de cette Église. Donc, Jésus, Pierre et les apôtres, les apôtres ont repris le fondement qui est Jésus-Christ. Ils l'ont établi, ils ont donné la parole. Hein. Tout le Nouveau Testament est venu des apôtres. Donc c'est ce fondement-là qu'on ne peut pas toucher. Si on touche à ça, on touche à tout l'édifice. Et nous, qui sommes ses collaborateurs. Vous voyez que l'immeuble grandit, hein, sur la base de ses fondations. Et donc c'est bien un édifice. Donc édifiez-vous les uns les autres, c'est pour construire un édifice qui est un édifice magnifique, puisque la fin, ce sera la Sion, la Jérusalem céleste, qui se construit et qui descendra du ciel, qui rejoindra la terre sur laquelle Jésus va régner. C'est l'ère du messianisme, l'ère du millénium. Et ensuite, après, nous entrons dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, vous voyez, c'est cette histoire qui a commencé par la pose de la première pierre, des pierres qui sont Pierre et les apôtres, et ensuite nous, les collaborateurs. Kuhn, disons, il propose de voir les apôtres et les prophètes, hein, fondés sur les apôtres et les prophètes, comme le plus important, c'est les prophètes, parce que c'est les porte-paroles de Dieu. Il dit, il faudrait lire les apôtres, c'est-à-dire les prophètes. Vous savez qu'apôtre veut dire missionné, envoyé. Donc, ils sont envoyés par Dieu pour apporter la parole de Dieu. Donc, effectivement, c'est bien le prophétisme, celui qui parle la part de Dieu, il parle la part de Jésus. Quand ils écrivent les Écritures, ils sont fidèles à ce que Jésus a dit, en particulier les évangélistes qui rapportent tout ce que Jésus a dit. Et aujourd'hui, il y a cette tendance à donner trop de voix aux prophètes, alors que, en fait, s'ils s'éloignent, eh bien, il ne faut pas les suivre. Il faut suivre que la parole, l'écriture seule, qui est le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, c'est une collaboration dans le temps. Alors, le mot édifier, édifier, vous savez, comme tout mot qu'on utilise, qui d'ailleurs souvent change de sens, et il change de sens suivant les contextes. Et c'est important qu'on replace le mot édifier, édifiez-vous, dans différents contexte où ils sont écrits. Il y a une vingtaine de fois où, dans le Nouveau Testament, le terme édifier est utilisé dans le contexte de la construction. Construire, édifier. Quelque chose, construire une maison. Et c'est utilisé, alors je vais prendre trois exemples où ce terme est utilisé pour montrer, voilà, pour faire le tour de ce mot et voir comment on peut le mettre en pratique les uns les autres dans l'Église. Alors, tout d'abord, on va aller en Italie, à Rome, hein, qui est la capitale de l'Empire. Et Paul y va et il écrit cette magnifique épître aux Romains. Et Paul, eh bien, il met en valeur, enfin, il évoque les difficultés de cette église. Vous savez que partout il y a des difficultés. Vous croyez que chez nous, il n'y a pas de difficultés? Hein, il y a des difficultés partout, dans toutes les églises. Partout où il y a des hommes et des femmes, eh bien, on a des difficultés. Ce qu'il faut, c'est savoir les gérer. Et ce mot édification, justement, prend un sens dans l'Épître aux Romains de la manière suivante. Dans Romains, chapitre 14, verset 19, il dit « Ainsi donc ». Ainsi donc, ça veut dire que voilà, il a fait un développement. Et après, là, il conclut « Poursuivons ce qui contribue à la paix, ce qui est constructif pour autrui. » Qu'est-ce qu'il y avait comme problème à Rome? Attendez, je vais prendre mes notes. Voilà, excusez-moi. Parce que normalement, j'aurais dû le mettre sur présentateur, mais là aussi, on a été pris de court. Peut-être ça va marcher, présentateur. Excusez-moi, hein, mais voilà, ouais, c'est mieux. Dans l'épître aux Romains, donc dans cette église de Rome, hein, en fait, la grosse difficulté, c'était les aliments. Vous savez, aujourd'hui, les adventistes, qui sont de très très bons évangéliques, voilà, ils sont très à cheval sur les aliments. Hein. Certains disent qu'il ne faut pas manger de viande, voilà, aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque des Romains, il y avait déjà ce problème de manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'était un gros problème, parce que vous ne pouviez pas aller dans une boucherie sans que, au préalable, cette viande était sacrifiée aux idoles. Donc il y avait un gros débat dans l'église de Rome, en disant, est-ce qu'on peut, on a le droit, on n'a pas le droit, si on les mange, quand on les achète à la boucherie, eh bien, on va se mettre sous la malédiction parce que c'était consacré aux idoles. D'autres qui disaient, non, les idoles, c'est rien. Effectivement, la Bible dit bien que les idoles, c'est des morceaux de pierre, de statues, de plâtre, etc. Bon. Et donc, pour un chrétien qui est à Christ, il est libéré de l'emprise spirituelle. Donc, certaines personnes qui étaient libres dans cette compréhension, je dirais plus évolué quelque part dans la compréhension du monde spirituel et du démoniaque, puisque ça touche l'aspect démoniaque, eh bien, ils prenaient ces viandes pour les manger. Et ceux dans l'église de Rome, l'église locale, qui disaient ben non, ils vont nous mettre sous une malédiction si on reste dans l'église. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans d'autres domaines, etc. C'est un problème qui se trouve dans toutes les églises. On discute parce qu'on n'a pas la même, ce qu'on appelle vision des choses, un paradigme, sur certaines choses. Et parfois, on les acquiert. Moi, j'ai beaucoup changé depuis 50 ans que je connais le Seigneur, parce que voilà, je sais qu'il y a des choses. J'ai appris le combat spirituel dans les années 90, je ne connaissais pas. Voilà, donc on apprend et notre manière de voir les choses évolue. Alors, la règle de sagesse que donne Paul dans ce cas-là, justement pour ne pas diviser l'Église, pour construire, édifier l'Église, il dit, voilà, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça veut dire qu'il proposait à ces personnes, à ces chrétiens qui sont plus évolués, eh bien, d'essayer de comprendre les plus faibles et de se mettre au service des plus faibles et de se ranger au service des plus faibles. Donc vous voyez, il y a un effort à faire pour pouvoir accéder à quelque chose de commun. Parce que l'Église, c'est du commun. Quand le mot « édifier » est utilisé, il est toujours utilisé dans un sens social, dans un sens communautaire. Jamais de manière individuelle dans l'Écriture. De temps en temps, bien sûr, il a parlé de s'édifier soi-même dans le parler en langue. Hein, bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais le mot édifier, c'est toujours pour construire ensemble une communauté. Et ça, c'est difficile. Donc ça, c'est les Romains. Ensuite, on va aller en Grèce. Hein, et en Grèce, la ville de Corinthe est une ville portuaire où il y a, voilà, vous savez, sur les ports, il y a beaucoup de débordements, prostitution, bars, les marins, etc. Voilà. Donc là, il y avait d'autres problèmes puisqu'ils venaient dans l'église. Donc, vous voyez, quand on vient dans l'église, on n'est pas, on est saint en Jésus-Christ, mais on n'est pas saint dans son âme, dans sa pensée, dans ses mentales, etc. C'est pour ça que nous, on a adopté la maison des lits pour nous aider au niveau psychologique, au niveau mental, à être libérés de certaines contraintes culturelles. Donc, pour revenir à Corinthe, eh bien, à Corinthe, il y avait un autre souci. Et le souci des Corinthiens, c'était les dons spirituels. C'était les dons spirituels qui posaient problème à l'intérieur de l'Église corinthienne. Voilà ce que dit l'apôtre. Il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Voyez-vous, on retombe sur la construction de cette maison, qui est la maison locale de Corinthe, que ça serve à l'édification. La manifestation de l'Esprit qui a été donnée à la Pentecôte, c'est pour construire l'Église, est donnée à chacun pour l'utilité commune, voyez-vous, pas pour soi-même. Et l'amour doit guider son usage. aspirer au don spirituel, dira Paul, et il dit, moi je parle plus que vous tous en langue, voilà. Mais quand je dis quelque chose dans l'Église, j'utilise la prophétie. Hein. Ou alors, là je ne vais pas rentrer dans le détail de cette théologie ou cette ecclésiologie des dons, on peut parler en langue s'il y a une interprétation, hein, mais sinon c'est la prophétie qui, sans interprétation, peut tout de suite édifier les autres. J'aspire d'ailleurs que dans cette église, on prie pour cela. Je pense qu'il faudra remettre ça à la réunion de prière du mercredi, de prier pour revenir à ce que des personnes qui viennent dans l'église ont ce don prophétique, comme on l'a connu dans le passé. Et grâce à ces dons prophétiques, on a pu régler beaucoup, beaucoup de situations délicates. Je pense à Marilyn qui encore aujourd'hui est en contact avec nous et qui souvent reçoit des images même qu'elle ne connaît pas du tout, enfin elle ne connaît plus. Elle est en Bretagne mais elle reçoit des images pour nous et de manière très très précise et qui nous aide dans le ministère pastoral à dénouer des situations voilà, que Dieu seul connaît. Il y a la maman de Claire, Annie Stéphane, qui est un don prophétique aussi, etc. Et donc voilà, il faut prier pour que voilà, le Seigneur envoie des dons. Des dons, c'est des dons. C'est pas des capacités qu'on peut développer soi-même, des compétences. Ceci étant, on peut quand même prophétiser, mais ça, on reviendra une autre fois sur l'usage, l'utilisation des dons. Là, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il y avait des différences et des oppositions entre ceux qui voulaient parler en langue et qui mettaient l'accent là-dessus et ceux qui voulaient sur la prophétie. Donc, il y avait une opposition. Et Paul dira, ben, écoutez, soyez sages. Soyez sages. C'est pas comme ça que vous allez construire et édifier l'Église en vous opposant, dénigrant les langues ou leur importance. Bien sûr, il y a une édification personnelle, mais pas communautaire, etc. Donc, je vous encourage tous, dit-il, à rechercher ce don, à l'exprimer, mais à faire usage de la sagesse dans la manière dont vous allez avancer ensemble. Si je m'approprie vous voyez par exemple la prophétie, il peut y avoir une prophétie, je vous donne l'exemple de prophétie, hein, dans l'Église avec des nouveaux, parce qu'on attend bien sûr des nouvelles personnes aussi qui viennent à l'Évangile dans cette ville et cette région, eh bien qui entendent par exemple une prophétie sur la compréhension de la réalité de la mort au péché en Christ. Bien sûr, ça, on l'enseigne, mais bon, les personnes ne viennent pas forcément aux enseignements, mais ils sont là dans l'Église, ils entendent ça. Et si ces personnes s'approprient cette prophétie qui est parlée de la part de Dieu, vous voyez, c'est pas dire demain il va faire beau, et voilà, il va prophétiser sur la réalité de ma mort au péché. Eh bien, si je m'approprie cette réalité avec l'aide du Saint-Esprit, et je fais mourir ma susceptibilité, mon orgueil, ma soif de contrôler les autres, ma soif de dominer. Tout ce qui met en péril l'unité du corps. Donc vous voyez, la prophétie est absolument capitale dans la construction justement de cette église. Et parfois une prophétie parle plus parce qu'on la sent personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, il y a des prophéties, vous avez l'impression que Dieu vous parle directement. Et que la personne qui parle, vous sentez l'écho. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit. Eh bien, ce type de message, qui est confirmation de la parole, vous permet de changer les choses. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'écouter, c'est de changer. C'est de mettre en pratique. Eh bien, si on met en pratique, parce qu'on a compris que Jésus est mort pour mes péchés, on le sait tous avec l'intellect, mais on le sait par le cœur, par la prophétie, eh bien, je vais chercher à me débarrasser de ma susceptibilité maladive, voilà, mon orgueil, ma soif de contrôler, etc. Allons un peu plus loin vers les Éphésiens. Donc on a vu l'Italie, la Grèce, la Turquie, vous voyez, c'est des endroits qui à l'époque étaient totalement séparés, à part les bateaux qui circulaient, il n'y avait pas d'avion, hein, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc on retrouve un peu des cultures dans les églises locales de manière spécifique. Là, les Éphésiens, rappelez-vous quand même qu'à Éphèse, Paul a créé une école, qui s'appelle l'école de formation pratique de disciples, qui s'appelle l'école Tyrannus. Tyrannus, il était pendant 2 ans, voire plus, en tout cas, à former des disciples à Éphèse. Donc c'est un lieu où l'église a vraiment été formée. Et c'est à cette église-là, dans Éphésiens 4, verset 12, il dira « Jésus-Christ a donné à l'église, alors voilà, je viens donc donner apôtre, prophète, etc., pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est l'église. » Et dans la Bible du Semeur, il y a bien le mot construction hein, qui semblait plus voilà, parler que édification, mais c'est le même mot, hein, édifice, édifié, en vue de la construction du corps de Christ. Donc vous voyez, les dons spirituels, enfin là c'est selon les dons ministériels, parce que les dons spirituels, faire des miracles, dans Corinthiens 12, 13 et 14, il est parlé des dons. Donc vous avez les dons de guérir, les dons de présider, les dons, il y a toutes sortes de dons hein, qui sont donnés. On verra ça dimanche prochain sur des aspects plus concrets d'utilisation des dons dans l'Assemblée. Mais là, c'est les dons ministériels, c'est-à-dire ce sont des dons qui sont donnés à des dirigeants, de ceux qui doivent diriger l'Église. Et dans ces dons-là, eh bien, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ce qui était intéressant à voir, c'est que autres passages, bien sûr, parlent de ces dons ministériels, mais ils n'évoquent pas les 5. Hein. Très souvent, on dit pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il y en a qui pensent que pasteur, docteur, c'est ensemble. Enfin, on ergote un petit peu sur les mots. Alors que la plupart du temps, quand ces ministères sont évoqués, il n'y en a que 3 qui sont évoqués. Ça m'étonnait parce que, bon, comme je suis assez attentif au chiffre 3 qui apparaît, qui est le fondement d'une unité quelconque, donc l'unité ministérielle, j'ai vu que la triade, tout ce qui est 3 dans l'Église primitive, était courante. Donc, c'était pas quelque chose. Ils n'étaient pas choqués s'ils écoutaient ma façon de voir les choses. C'était courant jusqu'au 4e siècle, cette façon de voir. Et Paul était aussi habitué à ce fondement ternaire et il ne citait que 3 ministères de base qui sont apôtres, prophètes et docteurs. Il ne cite pas évangéliste, ni pasteur, ni berger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il regroupe en fait le contenu même du fondement dont on a parlé. Le fondement qui est Jésus-Christ. Et à partir de ce fondement, bien sûr, après, on peut aller beaucoup plus loin dans l'expression de l'évangélisation, de prendre soin des brebis, etc. Mais c'est le fondement qui va construire l'édifice. Le passage d'Éphésiens continue en disant « En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons. » Et c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, et encore un terme de construction, pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion, sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. On verra dimanche prochain plus en détail ce deuxième élément du verset 16, qui est l'articulation de l'activité attribuée à chacune des parties, à chacun d'entre nous dans l'Église, qui n'avait pas forcément ni le ministère d'apôtre, de prophète ou de docteur, mais qui est nécessaire, on le verra à l'instant, pour l'ensemble de l'édification. Tout le monde a sa place. Alors, venons-en justement aux leçons de construction, puisqu'on parle de construction, on a parlé du mot édification, ce qui signifie dans les églises locales. Donc regardons maintenant une image, une métaphore, comme on dit, de la construction. Alors c'est un peu pour ça que Michel m'a passé la main, parce que voilà, j'ai quand même construit pas mal dans ma vie. Donc là, je parle de construction de bâtiments, hein, vous voyez, mais qui est en parallèle avec la construction de l'église, vous l'avez compris, de mon introduction. Alors, regardons un peu la construction, les leçons de la construction, parce qu'elles sont tout à fait applicables à l'église. Alors, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, voilà ce que Paul affirme. « Nous sommes des collaborateurs de Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre. J'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Dans ces deux versets, Corinthiens 3, se trouve un peu ce que je vais essayer de vous passer comme message, qu'en fait, l'Église est structurée. Et là, une structure, comme tout édifice qui doit monter en hauteur, d'avoir une structure qui puisse tenir les charges qui vont monter. Alors, revenons à Jésus. J'ai introduit ce message en disant que Jésus était charpentier, mais que dans son temps, en fait, si on replace les constructions de l'époque en Palestine, il n'y avait pas la RT 2012 aujourd'hui avec les obligations d'isolation, de pompe à chaleur. Vous voyez, Florence, auquel j'ai monté le dossier, c'était une galère pour la passer parce que les bureaux d'études, voilà, les banques ne prêtent plus du tout si vous n'êtes pas aux normes, etc. Bon. Donc c'est très compliqué, ok. Mais à l'époque, la Palestine, c'était le charpentier, si vous voulez. D'ailleurs, même quand vous allez dans soit en Normandie ou en Alsace, vous voyez les maisons construites en bois, du sol jusqu'en haut. Donc, quand on dit charpente, c'est le bois, hein, c'est construit en bois. Et le toit, bien sûr, il repose sur des bases, sur les poutres, etc. Et d'ailleurs, même, je sais qu'en Alsace, à l'écomusée de Mulhouse, ils vous le disent, souvent, ils démontaient quand ils déménageaient, ils démontaient d'un endroit d'Alsace à un autre, ils démontaient, ils le remontaient, parce que ça s'emboîte avec des tenons mortaises, etc. Voilà. Donc, c'est des charpentes qui soutiennent toute la maison. Toute la maison. Donc, si vous voulez, Jésus était plus qu'un charpentier. On dit charpentier, on voit le rabot tout le temps, voilà, comme l'image que je présente là. Mais en fait, non. Avec son père, avec Joseph, il devait construire des maisons. Voilà. Donc, on voit quelqu'un qui est architecte en même temps, parce qu'il peut dire, bah, la maison, voilà, elle habite trois personnes ou 10 ou 12. Voilà. À l'époque, il y avait beaucoup d'enfants. Donc, il faut proposer un type de construction au client, et ensuite, après, la faire, etc. Donc, Jésus était plus qu'un charpentier. Il était un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre. Alors, on va voir un petit peu plus ces termes, parce que les termes ont leur importance dans la construction. Jésus, c'est le maître d'œuvre de sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est nous, c'est l'Église. C'est pas le bâtiment, là, bien qu'on soit heureux de l'avoir, mais c'est l'Église. Et l'Église est construite comme un bâtiment. Vous voyez, par exemple, une construction, c'est en train d'être construit, eh bien, il y a des constructeurs. Construisent la maison. Alors, il y a quelque chose de très important dans une construction, et vous allez comprendre pourquoi, qui va illustrer le verset, qui est le panneau de chantier. Qu'est-ce qui connaît le panneau de chantier ? Levez la main, ici. Vous ne connaissez pas ? Alors, si vous ne le connaissez pas, faites attention quand vous allez sur une autoroute en construction. Non, je sais que vous tous le savez. Parce que si vous êtes tous passés dans une autoroute, vous êtes tous passés devant un immeuble. Ici, on avait un panneau de chantier devant pendant 2 ans. Il y a des gens qui s'arrêtaient parce qu'il y avait des informations dessus qui expliquent ce que c'est. Ah oui, attendez, vous n'êtes pas en phase là. Ouais, effectivement, je ne suis pas en phase avec l'image là. Je suis plus loin, panneau de chantier. Oui, parce que je pense que c'est eux qui cliquent là-haut, donc je ne suis pas synchronisé. Donc, désolé. Allô, Olivier ? Ah, temps de latence. Bon. Ben, il faudra le régler, voilà. Voilà. Donc, le panneau de chantier, vous voyez, il y a bien sûr le panneau de travaux, hein, mais il y a un panneau de chantier. Alors, voilà, je vous montre ce panneau de chantier. Vous allez dire, ah oui, mais oui, mais oui. D'accord. Mais vous voyez, ça, c'est les panneaux de chantier. Alors, il y a une norme. Panneau de chantier, c'est-à-dire que des impositions d'informations, mais il y a des formes différentes. Là, vous avez l'image, la photo de l'immeuble. Ici, vous avez beaucoup plus d'informations. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut les mettre parce que ça donne aussi de la publicité. Ouais, là, il y a beaucoup de constructeurs ici qui interviennent. Et là, il y en a moins, hein, vous voyez, que ça. Non, je ne suis pas encore là. Hein, attendez, essayez de suivre là. Il devance là. Voilà, on va juste rapidement un petit peu balayer cette construction parce que vous retrouvez tous les termes dans l'écriture. Ouais, j'aimerais bien qu'on fige l'image. C'est la suite, c'est le suivant. Ben, j'aurais préféré le câble, mais voilà. C'est de la technique en même temps, c'est pas top. Voilà. Alors, je clique la suivante. Alors, il y a un projet, donc dans une construction, un projet, il y a des acteurs, il y a une organisation et il y a une collaboration. Donc, l'ensemble de ces éléments, on va les retrouver dans l'église. J'ai cliqué, hein. Il faut regarder par la fenêtre, si vous voulez, pour cliquer en même temps. C'est pas synchronisé, hein, Jérôme? À 20 secondes. Ah oui, donc ça suit, mais avec 20 secondes, c'est ça? Non, bah, il suffit que je le sache, à ce moment-là, j'attends 20 secondes. Bon, d'accord. Donc c'est bien synchronisé, mais en latence. Ah bon, bon bah. Non, c'est pas grave, il suffit que je sache qu'il faut que j'attende 20 secondes, sauf que ça me bloque, effectivement. Bon, bah, c'est le problème. De vouloir faire de la technique en même temps, c'est pas top top. Vous allez souffrir un peu. Non, parce que là, on arrive à des choses où je voulais aller un peu plus vite, et là, je suis obligé de freiner 20 secondes parce que ça paraît toujours pas. Hein. Donc, il y a quand même un autre problème parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4 clics que j'ai fait et qui ne sont pas apparus. Voilà, je suis désolé hein, pour vous. Justement, je veux éviter que le public soit le plus confortable possible et qu'on oublie la technique. C'est ça l'idée. C'est que la technique, ça ne doit pas être prévalente au message, mais là, je suis embêté. Bon, là-dessus, vous voyez apparaître des mots. Hein, donc, j'ai cité projet, acteur, organisation, collaboration. Ensuite, voilà, cette image-là présente les trois principaux éléments. Trois principaux éléments. En haut, vous avez le bénéficiaire, donc c'est le maître d'ouvrage. Alors, c'est vrai qu'avec Florence, au départ, ce n'est pas toujours évident, maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Bon, c'est un terme dédié. L'ouvrage, c'est celui qui en bénéficie. Voilà. Ça, dans 20 secondes, ça va apparaître là-haut. Donc, c'est le bénéficiaire, celui qui va avoir l'usage du bâtiment, par exemple. Alors, sur les panneaux, que je reviens tout à l'heure, ça peut être, par exemple, l'association des EHPAD. Des EHPAD, voilà, qui construisent un nouvel EHPAD, etc. Donc, c'est eux qui ont commandé ce travail. Ensuite, vous avez sur la gauche, en bas, vous avez la maîtrise d'œuvre. Hein, maîtrise d'œuvre. C'est pas synchronisé hein, parce qu'il y a des choses qui apparaissent que j'ai pas encore mis. Donc, il y a un petit problème. C'est embêtant pour vous. Hein, bon, ça me dérange pas, mais j'ai préparé quelque chose qui. Voilà. Donc, un coordinateur de travaux. Donc, ce coordinateur de travaux, il est payé par le bénéficiaire, par le maître d'ouvrage, et lui, c'est le maître d'œuvre. Vous voyez, quelque part, le maître d'ouvrage, c'est le client. C'est comme Jésus qui va avec son père voir quelqu'un pour lui demander qu'est-ce que vous voulez comme maison. Donc, lui, il va, voilà. Et le charpentier, enfin, en question, le maître d'œuvre, Jésus, eh bien, il va coordonner les travaux, y compris les siens, pour pouvoir construire la maison. Et il y aura des réalisateurs. Donc, des corps de métier à droite, là, je viens de faire apparaître les réalisateurs par corps de métier. Et ce sont les entreprises. Et entre eux, il y a bien sûr, des échanges. Hein. Il y en a un qui donne des ordres, celui qui est en haut, il donne des ordres, c'est le donneur d'ordre, on l'appelle le donneur d'ordre. Il a le pouvoir parce que c'est lui qui donne l'argent, etc. Et en bas, il y a celui qui coordonne, qui ordonne avec. Hein. Vous voyez, c'est des mots de construction qui sont importants. Il coordonne avec. Il coordonne avec les entreprises, il s'arrange et il y a des retours. des retours sur la droite qui sont des problèmes techniques, parce que par exemple, les entrepreneurs vont dire « Ah oui, ça c'est pas possible de faire, est-ce qu'on peut changer ?» etc. Donc ils s'adressent directement au maître d'ouvrage. Sur le côté gauche, le maître d'œuvre va dire « Bah oui, mais là, les budgets vont éclater, votre maison ne va pas coûter 2 millions, il va être 2,5 millions, est-ce que je continue ?» etc. Vous voyez. Donc il y a cet échange entre les trois. Alors je voudrais effectivement partir de cette construction hein, donc, qui est sur le panneau. Donc toutes ces informations sont sur le panneau de chantier. Parce que c'est quelque chose qui est transparent et qui est une construction. Et dans l'église, eh bien, on a la même organisation. Parce que c'est comme ça qu'on construit l'église. Donc vous avez le maître d'ouvrage, c'est Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Le bénéficiaire, c'est celui qui est le maître de l'ouvrage qui est à sa gloire. Voyez-vous, il fait un ouvrage à sa gloire. Par exemple, l'humanité dans son ensemble, c'est un ouvrage à sa gloire. Donc, on a le maître d'ouvrage qui est Dieu. Et ensuite, après, on a le maître d'œuvre, celui qui met en œuvre, c'est Christ, qui est venu à la croix pour mettre en œuvre le plan du salut, et le Saint-Esprit, qui a continué en le ressuscitant d'entre les morts, à achever cet ouvrage de cette nouvelle humanité, ce nouvel Adam, qui est effectivement le Christ et son esprit. Et on retrouve ensuite après les apôtres et les prophètes, qui sont le fondement, puisqu'ils établissent, parce que ce livre n'a pas été écrit par Jésus, est écrit par les apôtres et les disciples avec le Saint-Esprit. Donc nous avons là le maître d'œuvre qui est là, le Saint-Esprit Jésus. Et vous avez les disciples, les collaborateurs, les constructeurs, les exécuteurs de travaux qui sont établis par corps de métier. Donc là, il y a beaucoup de métiers, et des métiers différents, etc. Et on le verra dimanche prochain, en plus en détail, comment ces métiers s'exercent dans l'Église. Cette organisation est aussi hiérarchique. C'est le maître d'ouvrage qui, bien sûr, est le donneur d'ordre, celui qui est à la tête de tout cela. Et dans l'Église, eh bien, c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un projet à sa gloire, à la gloire du maître d'ouvrage. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans les Romains, dira « Il suffit de regarder la création et de voir la gloire de Dieu dans toute sa magnificence. » On voit ce que Dieu a créé dans le monde physique, mais on le voit aussi dans l'Église, ce qu'il est en train de faire, malgré les défauts des Églises. Nous sommes saints en Christ, et ça, c'est parfait. Voyez. Donc, tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui ont compris cela, comme par exemple Jean-Sébastien Bach, il va écrire à la fin de toutes ses partitions « Soli Deo Gloria ». SDG, « Soli Deo Gloria ». À Dieu seul soit la gloire. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Ensuite, hiérarchiquement, c'est le coordinateur, c'est le maître d'œuvre qui est sous les ordres du maîtrise d'ouvrage. Et là, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui est le chef de l'Église. Concrètement, il est chef de l'Église. C'est pas le pasteur, c'est pas... Voilà. Le pasteur, c'est un serviteur. Hein. Mais pasteur ou ancien, ou peu importe. Mais c'est vraiment Christ qui est la tête, le maître d'œuvre. Et l'exécuteur des travaux, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est sous les ordres du coordinateur de travaux, mais il coordonne, c'est-à-dire il coopère, il travaille avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Ce sont des collaborateurs, des constructeurs, et c'est nous. Et on va en parler un peu plus au travers des ministères dons. Donc il y a les ministères dons et les ministères de compétences qu'on acquiert, de qualifications dans l'Église, etc. Vous savez, là, on est dans la technique, je suis désolé, parce que j'aime bien que ça marche. Voilà, il faudra qu'on ait un peu de temps pour maîtriser tout ça. Ça prend du temps. Et donc là, on est en balbutiement par rapport à tout ce qu'on a déjà fait et ce que vous avez déjà fait, je vous en félicite. Eh bien, voilà, ça prend du temps. Les compétences s'acquièrent. Il faut de la formation, il faut de l'information, il faut du training, etc. Mais ça, c'est humain. Hein, et on ne peut pas faire du parfait du premier coup. Donc, ça, on le verra. Et ça, c'est l'Église. Et il faut qu'on accepte faut qu'on accepte de marcher et de prendre du temps, de se former. Et c'est pour ça qu'on vous a beaucoup proposé de formation, que ce soit le TQP, soit le ministère de la Maison d'Élie, hein, tout ça, c'est de la formation pour qu'on puisse le mettre en pratique. Alors, un petit exemple qui est intéressant, c'est les castors. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'association des castors? Alors, là, personne. Si Marie-France était là, elle dirait oui. Je pense qu'au bout de la vidéo, elle doit connaître. Pourquoi? Parce que, en fait, la doyenne de notre église, que vous connaissez, Paulette Le Tourneur, avec son mari, ils étaient déjà dans l'association des castors. L'association des castors a été créée après la guerre. Mais il y a beaucoup eu de demandes de construction et très peu d'entreprises. Donc les castors, c'est une association de personnes qui ont envie de construire, d'habiter dans une maison. Comme toutes les maisons étaient détruites, eh bien, ils se sont mis ensemble. C'est une association, ils se sont mis ensemble. Et le principe des castors, alors moi, quand j'ai construit ma maison, je me suis aussi inscrit aux castors. Ça existe encore, les castors, sauf que les règles ont changé. Hein. Mais les règles qui étaient au temps de M. Le Tourneur, et si jamais vous achetez une maison, je sais qu'il y en a un qui cherche des maisons, si vous achetez une maison castor, vous pouvez être sûr de la qualité. Hein. Bon, je peux vous le dire, parce que la maison de Le Tourneur, comment il s'appelait, lui? Je cherche le prénom de son mari. René. René, il pouvait expliquer tout ce qu'il faisait. Il fabriquait leurs briques. Il fabriquait les briques. Donc, à partir de l'argile, il faisait des trucs de briques, il le mettait au four, etc. Donc, toute la maison était construite par eux-mêmes. Et en fait, l'idée, c'était que de se mettre ensemble. En fait, même si on sait faire beaucoup de choses, moi je sais faire beaucoup de choses en construction, mais il y a des moments où j'ai quand même besoin de gens. Par exemple, quand j'ai dû mettre une poutre qui faisait une tonne dans mon salon, il en a mis trois. Bon, j'avais mis mon petit voisin qui était très costaud. J'ai fait comme les pharaons, j'ai monté des parpaings un après l'autre pour la monter. Bon, mais à un moment donné, il faut quand même avoir de l'aide. Alors, on peut avoir plus ou moins besoin d'aide en fonction des compétences, etc. Mais une construction se fait à plusieurs. Hein. Vous voyez, par exemple, là, voyez, ils sont plusieurs à faire des choses ensemble. Et les castors, c'est ça. Alors, l'idée des castors, c'était de dire, voilà, il y a 10 personnes qui veulent construire 10 maisons, ici, dans ce village, dans cette ville. Et donc, ils s'engagent sur un certain nombre de milliers d'heures. Par exemple, 2000 heures. Je donne, moi, 2000 heures à mon voisin. Lui, il me donne 2000 heures, etc. Donc, on se donnait des heures et il faisait des comptes d'heures. Et donc, en fait, c'était de l'aide sous contrat pour pas qu'il y ait des gens qui profitent et d'autres qui ne profitent pas. Toute association a des règles. Et ceux qui étaient bons en plomberie, ils faisaient la plomberie de la maison. Ceux qui étaient bons en charpente, ils faisaient de la charpente. Et on s'aidait comme ça mutuellement, ce qui fait qu'ils passaient de maison en maison et tout un ensemble de maisons était fait par cette association, des gens qui se sont mis ensemble dans le cadre des castors. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. À l'époque de M. Le Tourneur, donc en fait, ils faisaient tout. Ils avaient des machines à briques, etc. Voilà, bon. Moi, quand je me suis associé, effectivement, j'ai acheté mes parpaings chez le roi Merlin. Bon. Et aujourd'hui, cette association existe encore. Vous pouvez faire une maison castor. Mais bon, il n'y a plus beaucoup de temps à donner à votre voisin, par exemple. Voilà. Ils ont changé les règles. Donc le mot castor existe encore, mais ce n'est plus tout à fait la même chose. Mais là, je me réfère à l'origine de cette association qui illustre parfaitement ce que c'est qu'une église. Une église, c'est... On rentre ensemble dans une église locale qui a un projet, qui a un appel. Et le Garvey est en train de réfléchir à la rédaction de l'appel. L'appel, c'est un projet d'une église locale qui est appelé à quelque chose de spécifique. Prenez juste David Wilkerson, quand il était appelé à New York, alors qu'il était, je ne sais plus, en Pennsylvanie ou dans le fin fond de la campagne, il est allé à New York pour établir une église, mais c'était parmi la mafia et les brigands et les chefs du gang. Et voilà, il a failli perdre la vie tous les jours à un certain moment quand il allait dans ces quartiers-là. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Bon, lui, il a dit qu'il l'a fait parce qu'il a eu un appel. et qu'il ait la grâce. Quand Dieu fait un appel, il donne la grâce. Mais il a été appelé dans ce milieu-là. Bon. Il y en a qui font une église parmi un ensemble de un quartier de prostituées, par exemple. Bon, là aussi, il faut savoir s'y prendre. Il faut des compétences particulières. Demandez à la fille Goth, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Laetitia, qu'on soutient là, etc., etc. Bon, nous, on a un appel aussi pour les familles. Bon, ça demande des compétences pour la famille. C'est pour ça qu'on a développé un certain nombre de choses pour les compétences. Toujours est-il qu'il y a un bien commun. Ce bien commun, c'est l'appel. Le bien commun des castors, c'était de faire un habitat. D'habitat, une maison, tout le monde cherchait une maison. Et il n'y avait pas assez de constructeurs pour le faire. Donc, l'association d'un castor pourvoyait ça. Et c'est le fondement de l'Ecclésia. L'Ecclésia, l'Église de Jésus-Christ, c'est la même que la République. Res publica, c'est pareil. C'est la chose publique. C'est le bien commun d'une nation. Et l'Ecclésia, c'est basé là-dessus. La République, c'est basé sur l'Ecclésia. Jésus a appelé l'Ecclésia pas par hasard. Il n'a pas appelé synagogue. Il a dit, c'est mon Ecclésia. Et l'Ecclésia marche dans ce sens où tout un chacun met sa contribution au bien commun pour faire avancer les choses dans l'objectif de l'ouvrage qui a été décidé. Voilà, un petit retour maintenant, juste avant de terminer, sur la leçon de l'édification mutuelle. Édification, c'est construction mutuelle de l'Église. Dans Romains, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 2, que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue de ce qui est bon et constructif. Alors là, c'est un peu un pavé dans la mare, parce que, vous voyez, c'est pas comme un projet habituel d'une entreprise. C'est pourquoi j'ai pas pris d'entreprise là. J'ai pris de l'association. Et nous, on est une association de membres qui bénévoles, qui se mettent en commun. L'entreprise, c'est autre chose. L'entreprise, c'est on vous paye pour faire quelque chose. Voilà, si le patron n'est pas content, il vous licencie. Vous ne faites pas l'affaire, vous licenciez. Dans l'église, on ne vous licencie pas. Vous n'êtes pas payé. On ne peut pas vous licencier. Mais on s'attend à ce que vous fassiez des choses qui plaisent à l'autre. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'altruisme, c'est-à-dire penser à l'autre sans arrêt. Penser à l'autre sans arrêt. C'est difficile. Mais justement, c'est ça l'amour, voyez-vous ? C'est le principe de l'amour. L'amour, c'est quoi ? C'est l'amour don, l'amour agapé. C'est pas l'amour éros, qui est, voilà, je me fais plaisir. C'est pas l'amour philéo, d'une amitié, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui se donne. Le Père a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour qui se donne. Et ça, c'est très difficile parce que c'est totalement contraire à notre façon normale de fonctionner. C'est contraire. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas parce que le Saint-Esprit nous aide. Mais c'est sans arrêt. Chaque jour, on doit se dire, je dois me donner à l'autre. Et donc, quand on parle d'amour, bon, bien sûr, c'est un peu facile de prononcer le mot amour, mais de le faire, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire, il faut mourir à chaque instant à soi-même pour faire plaisir à l'autre. Mais l'autre, il n'est pas parfait. Donc, en fait, on va critiquer, etc. Vous voyez, bon, tous ces allers-retours, c'est pour ça que l'Église locale est très difficile à construire, très très difficile. Parce que, effectivement, on bute très vite sur des aspects, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais voilà, oui, mais oui, des 8 mai. Sauf que l'amour, ce n'est pas du 8 mai. L'amour, c'est ça. C'est, elle se donne. Et en plus, la règle de l'amour, c'est qu'elle couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, vous voyez, par exemple, là, ça ne marche pas bien, etc., j'en veux à personne, c'est juste parce que je veux que vous soyez confortable à suivre le message. Mais voilà, je dis, on va faire ensemble pour aller plus loin. On va continuer à travailler ensemble, comme on a déjà fait, et on va continuer à chacun, à notre niveau, à développer nos compétences. Et ça, c'est important. C'est la motivation de dire... Dieu m'a mis à cette place-là. Par exemple, Rémi, voilà, il a fait de la guitare. Je vois qu'il a fait énormément de progrès, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Tu as travaillé. Bon, voilà, tout à fait. Moi, je sais que quand Michel et moi, on était responsables de jeunesse dans l'église de Mantes, il y avait un certain Moïse. Un jour, il a dit: Ah, ben, j'aimerais bien faire de la guitare, faire de la louange. Ok, je crois qu'on lui a acheté une guitare, ou je sais pas, quelqu'un lui a proposé une guitare. Mais la semaine d'après, il a joué de la guitare. Mais il a presque joué nuit et jour sa guitare du lundi au samedi. Hein. Ouais, parce qu'il était déterminé à apprendre. Aujourd'hui, il est dans les groupes de louanges, j'ai fait de la louange. Ouais. Mais vous voyez, ça, c'est une détermination, bon, extrême, parce qu'il était fan de pouvoir jouer de la guitare et tout ça. Voilà, c'est à développer sa compétence. Hein. Vous voyez, ça ne s'est pas fait tout seul. Voilà, donc les compétences, bon, on verra dimanche prochain message, concrètement, les compétences dans l'Église, pour édifier l'Église, comme c'est le cas sur les chantiers. Et sur les chantiers, bon bah, si vous venez, vous avez un plan et quand le maître d'œuvre il arrive et qu'il voit que moi un jour quand j'ai voulu construire, j'ai voulu accueillir l'église chez nous, c'était trop petit le salon, donc j'ai construit l'extension pour faire venir l'église. Il fallait que je passe par un architecte juste pour déposer les plans. Donc je l'ai fait venir. Et lui était tout content de donner son avis et tout ça. Et il m'a dessiné un truc. J'ai dit, mais attendez, là, la porte, vous la mettez à un endroit où il y a 2 mètres de terre. C'est pas possible de mettre la porte là. Voilà. Il faut la mettre en face, comme je vous ai fait un croquis. Ben, il a maintenu qu'il fallait la mettre là. Et quitte à faire un trou pour y aller. Et ça s'appelle de l'obstination et de la compétence. Mais voilà, il faut que chacun puisse développer sa compétence pour écouter le client, écouter le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est Dieu. C'est lui qui est la tête de l'Église. Et en écoutant ce qu'il veut, tous en écoutant, tous en étant dans l'amour, c'est-à-dire en cherchant avant tout le bien de l'autre, eh bien, il y aura une réciprocité. L'autre, il cherche votre bien, vous cherchez son bien, et c'est ce qu'on appelle l'amour. Et là, ça donne de l'huile dans les engrenages, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on édifie une église où il n'y a pas de critiques, où s'il y en a, ils vont cesser. S'il y a, voilà, parce il peut y avoir une critique naturelle, mais quand on l'aime l'autre et qu'on veut tout faire pour l'aimer, eh bien, la critique va cesser à un bout d'un moment. Voilà. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine, un petit peu plus en détail, des applications concrètes de l'édification à partir de ces éléments des corps de métier qu'on appliquera à l'Église. Et donc, c'est une construction, un édifice spirituel qui doit s'élever pour glorifier le Seigneur. Tout ce qui doit nous animer, c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, l'avancement de son royaume. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je fais là? Je veux faire avancer le règne de Dieu. Le règne de Dieu ici et maintenant, aujourd'hui, dans cette ville, dans cet endroit où Dieu m'a placé. Si j'accepte mon appel, je veux dire, je ne veux pas chercher à aller ailleurs. Si Dieu m'appelle ailleurs, un jour, ben, il m'appellera ailleurs. Mais maintenant que je suis là, eh bien, je le sers de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et mon voisin, ma voisine, mon frère, ma sœur, eh bien, on travaille ensemble pour faire avancer l'Église. Voilà le message des uns et des autres sur l'édification. Et on va prier un instant pour que Dieu nous aide dans cette tâche difficile. Une construction est difficile. Hein. Vous demandez à Florence, hier, on a réparé bien son chauffage. C'est difficile. Moi, j'ai dit là, ça dépasse mes compétences, j'ai fait venir quelqu'un. Même si j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Parce que ça dépasse mes compétences. Et donc, on a besoin les uns des autres. Hein. Mais on y arrive. Avec la persévérance, l'obstination, l'amour et la soumission les uns aux autres. Et surtout, la soumission en Christ. Et vouloir travailler pour la gloire de Dieu. Toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour l'Église que toi, Seigneur, tu as fondée. Et tu as envoyé, missionné, c'est-à-dire les apôtres sont des missionnaires, pour fonder cette Église au travers de ta parole, toutes les épîtres qui expliquent les fondations, et Seigneur, les évangiles qui rappelle ce que tu as dit quand tu étais sur la terre, et bien tout cela, c'est les fondations qu'on ne peut pas bouger. Et nous te demandons ta grâce, que Seigneur, parfois c'est un petit peu, un petit peu vicieux, où les fondations, on les bouge un petit peu. Seigneur, nous voulons revenir à ces fondations et y rester, pour que cet édifice soit ton édifice, et pas le nôtre. Pour que, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir mettre en pratique cet amour mutuel, cette acceptation mutuelle, croyant par la foi que, Seigneur, c'est toi qui fais le travail parmi les uns et les autres pour faire avancer ton Église et avancer cette Église ici, particulièrement Bergenville. Seigneur, nous te prions pour la grâce que nous avons d'avoir pu nous installer ici, même avec la faveur des autorités à l'époque. Mais Seigneur, maintenant, nous voulons aller plus loin. Et nous te remercions de ce que tu nous conduis jour après jour. Mais fais-le aussi pour chacune de nos vies, que nous puissions, Seigneur, être ceux qui sont adossés à cet édifice spirituel que tu construis et qui un jour viendra du ciel sur la terre pour l'établir pleinement. Nous t'en remercions, Père, au nom de Jésus. Amen.